Salut Alex.
Salut les gauchos.
Hein?
Oui, alors faites pas les innocents. Vendredi, j'étais pas là et on en profite pour faire une belle émission de révolutionnaires.
Bah évidemment, on avait invité Jean Ziegler.
Oui. Bah l'invité, vous avez réussi à trouver le seul Suisse de gauche.
Ah, j'avoue, on a dû chercher un peu.
Ah oui, ben résultat, vous l'avez laissé dire des phrases comme celle-ci.
Le révolutionnaire est un opportuniste qui a des principes.
Ah bah il a bien raison, je vais te dire.
Ça, c'est un type formidable, Jeannot.
Oui. Enfin, mais il vous a endoctriné.
Quoi ? Pas du tout.
Mais il a raconté que des conneries, écoutez.
Les femmes sont plus intelligentes que les hommes par... pas de nature.
Oui, bah évidemment, on peut pas dire que des choses pertinentes sur une
mais pas du tout, il a raison sur tout, Jean Ziegler.
Oui, peut-être pas là, du coup. C'est, non, quand même
c'est sûr, c'est que quand il parle de révolution, là, il sait de quoi il parle.
Mais arrêtez tout ça, parce qu'il a fait 2-3 rencontres par hasard.
Dans le film, vous expliquez très bien à quel point votre rencontre avec Che Guevara vous a offert la stratégie pour le combat de votre vie. Che Guevara, que vous avez conduit jusqu'à Chamonix, d'ailleurs, même.
Il a conduit Che Guevara à Chamonix.
Bah, c'est la classe, quand même.
Mais Che Guevara, il a libéré Cuba, il a fait la guérilla en Bolivie, il est même allé faire des actions militaires au Congo.
Et
le monsieur, il l'a emmené à Chamonix.
Bah, c'est pas facile d'y accéder quand il y a de la tempête.
Bah,
Guillaume a raison.
Alors, moi, j'ai une tante qui avait un ami qui, un jour, a livré une nouvelle paire de sandales à Gandhi.
Non, je le connais, c'est vrai.
Bah, bien sûr.
Bon, Alex, franchement, si c'est tout ce que t'as à nous reprocher.
Non, le plus grave est à venir.
Ah bon?
Ah bah bien sûr, regarde comment t'as présenté les chroniqueurs.
Et pour m'accompagner aujourd'hui, une équipe de toute beauté.
Mais enfin, mais Charlie, on dit pas une équipe de toute beauté, on dit une toute belle équipe.
Ah oui, ça c'est très grave ça.
Et
oui.
Il est sympa Gandhi en vrai.
Il chose du combien? Bonjour la France Inter, entrez dans l'open space, vous te rendrez bien une part de start-up. On va travailler la patte de l'actualité qui finira bien sûr brisée. La gauche s'est trouvée un nouveau penseur, un sage, un leader. La nouvelle égérie de la gauche s'appelle Jacques Toubon. Le défenseur des droits pousse une gueulante contre la loi asile et immigration. Écoutez-le, comment il est devenu punk, Jacques Toubon.
Je refuse d'être un petit bourgeois, tu entends? Je refuse.
Les squats, les terrains vagues, les tunnels désaffectés, ces lieux de la marginalité, notamment artistique, aujourd'hui sont gérés et s'appellent des friches urbaines. Bref, le squat s'est gentrifié. Qui sont donc ces nouveaux bobos squatteurs?
Il y a le terrain du comte de Morton, là. Là. Impossible. Bon, là, le terrain de Madame Bourgoin, là. Mais elle n'est pas encore morte. Elle n'est pas encore morte.
Et parmi tout ce qui fout le camp, il y a des tas d'appareils du quotidien dont les bruits constituent nos souvenirs, la cassette dans le Walkman ou le premier modem. Alors pour réveiller ces souvenirs, il faut enregistrer ces bruits. C'est ce que fait une base de données qui conserve ces reliques sonores.
Je vais vous demander, je ne vous dérange pas avec le bruit là.
Quel bruit?
C'est moi qui écoute des cassettes de François Hardy à cette heure.
Oui, je vois arriver la transition. Oui.
Non, c'était trop facile. Les 33 tours de Michel Thor, Alex Vizorek.
Bonjour, Charline Vanhoenacker. Et autour de la table, une toute belle équipe, bien évidemment. À 17h20, celle qu'on ne sort qu'aux grandes occasions, comme un bon champagne. Celle qui pétille, comme un bon champagne. Mais surtout celle qui est brute, comme un bon champagne. C'est vous, Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour, alors vous tombez bien, Alex.
Ah, comme d'habitude.
Parce que c'est un écrivain brut dont je vais vous entretenir aujourd'hui. Jeune, drôle, brut.
Très bien, 17h30, celui qui a enfin compris qu'il était temps qu'il retourne à l'école et pas comme la dernière fois pour y foutre le boxon, c'est vous Guillaume Meurice.
Un petit peu quand même aujourd'hui, bonjour Alex, bonjour Charline, je suis effectivement retourné, je suis allé à l'université de Tolbiac, en grève, recueillir l'avis des riverains. Par exemple, certains pensent que les étudiants feraient mieux de quoi?
Redresser la France. Ça vous dit quelque chose, ça ou pas?
Ah oui, mon général.
Et enfin, à 17h40, celui à qui on a proposé de sortir ses chroniques dans un recueil, mais à la condition qu'il accepte de les traduire en français. C'est vous, Hippolyte Girardot. Bonjour.
Oh, c'est très drôle, Alex. Bonjour, bonsoir. Écoutez, moi, je vais vous faire quelque chose dans l'honneur de notre invité qui a beaucoup fait dans ma vie cinématographique.
Oh, mais qui est cet homme? Je me tourne vers celui qu'on a choisi pour son corps business, car vous sortez de HEC, j'ai lu ça avec une thèse sur l'économie du cinéma. Mais très rapidement, vous devenez assistant réalisateur pour Jacques Rivette ou Peter Fleischmann, avant que François Truffaut ne vous offre un premier rôle marquant dans L'Argent de Poche en 76. Deux ans plus tard, vous réalisez votre premier long métrage, Passe-Montagne, dans lequel vous jouez avec Jacques Villeray. Vous tournez dans Passion de Jean-Luc Godard, dans Une chambre en ville de Jacques Demy, puis vous tournez pour Mocky, Blié, Godard, Téchiné, bien d'autres. Vous réalisez deux autres films, Double Messieurs avec Carole Bouquet et Mishka, sorti en 2001. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes...
Jean-François Stevenin.
Mais évidemment.
Oui, oui, bonjour, et je fais tout ça, moi.
Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Jean-François Stevenin. Vous apportez sous le bras les trois films que vous avez réalisés et qui sont restaurés. Il y a Passe-Montagne, Double Messieurs et Mishka. Alors, je voulais vous demander, après cette restauration, est-ce que vous avez reconnu vos films ?
Oui. Oui, mais en mieux cette fois-ci. Enfin, il était temps, hein, parce que voilà, c'est le Centre national du cinéma qui a jugé que ces films, j'avais fait un dossier, devaient faire partie du patrimoine des films les plus intéressants. Bon, donc ça devait. Et là, ils ont mis l'oseille qu'il fallait, parce que ça coûte extrêmement cher, et du coup, les films existent, parce qu'autrement, c'est foutu. C'est-à-dire, s'il n'y a plus de copies argentiques, il n'y a plus de projecteurs argentiques, ces films, c'est comme si on ne les avait pas tournés. Mais seulement pendant cette restauration, il y a les moyens techniques qui sont absolument hallucinants, et qu'on fait progresser les films dans la même direction où ils étaient, mais de au moins 20%. C'est-à-dire, on a épuré le son, on a pu retrafiquer l'image, et c'est beaucoup mieux. C'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire.
Donc on est passé de bande à version numérique,
oui,
tout simplement,
oui, oui.
Déjà. Hippolyte Girardot.
Oui, Charline Van
Honecker. Passe-Montagne, c'est un film qui vous a beaucoup marqué. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Mm-hmm. Et vous avez remarqué quelque chose au générique.
Oui, Jean-François, en regardant à nouveau ce film, que moi j'ai trouvé excellent au niveau de l'image, effectivement. Je n'avais pas vu depuis très très longtemps. J'ai une vieille copie VHS parce que c'était un jour présenté à FR3 très tard, bref, j'avais enregistré sur une ancienne, comment dire, un ancien match, donc évidemment, ça, ouais, bref, peu importe.
En passant donc, cam ou en comment
et donc, non, mais parce que j'ai vu, il y a marqué continuité, à un moment donné, j'ai vu John Cassavetes.
Ouais.
Or, continuité, c'est bien le script, enfin les scripts qui sont là, assis à côté du réalisateur, qui notent tout ce qu'on fait, à peu près.
Oui,
est-ce que John était là un jour,
non,
avec vous?
Non, mais il était tout le temps là. Il était le temps là. C'est-à-dire que moi, j'ai créé cette rubrique au sens de tous les gens qui m'ont donné vraiment la foi, qui m'ont permis de garder le moral, parce que il a fallu 6-7 ans à bien ramer avant de faire les films, avant de faire le premier film, surtout le premier. Et la Cassavetes m'avait donné un courage formidable. Donc c'est pour ça que je voulais le remercier.
D'accord.
Parce que moi, quand je travaillais beaucoup avec Truffaut, j'étais plein de films avec Truffaut, ou Rivette, ou Jacques Rosier. J'adorais travailler avec eux parce que j'étais un super premier assistant, je peux le dire maintenant, sans pas de problème. Mais seulement, ce qu'ils faisaient, ça m'intéressait, ça ne me parlait pas vraiment. Donc j'étais ravi de travailler pour eux, mais bon. Tandis que quand j'ai vu les films de John, alors là, c'était un cousin, et il se trouve qu'il est à Los Angeles. Pour moi, c'était la porte d'à côté, vraiment la porte du cœur qui s'ouvrait en grand, quoi.
Ouais, vous dites, c'est long de faire un film, mais quand on voit, il y a à peu près 15 ans entre chaque, on retombe pile dedans, là.
Oui.
Donc, on s'y remet ou pas, M. Stevenin?
Non, j'ai un scénario, là, qui est fini et tout. Il y a un producteur, mais on s'est aperçu... une fois que tout ça a été terminé, que là, je peux pas parce que ça me prend trop de temps quotidien. C'est-à-dire, la façon dont je fais les films, moi, n'ayant jamais eu assez d'argent pour les faire, j'ai tourné quand même 11 semaines, 12, c'était plutôt assez confortable. Il m'aurait fallu le double. Donc, ça oblige à travailler pendant 5 ans, 3 heures de sommeil par jour. Là, c'est plus possible.
Et puis, vous ne facilitez pas la tâche, moi qui ai donc vu Découvert, moi pour ma part, Passe-Montagne, tourner en courant dans la neige ou dans la pénombre.
Ouais, ouais.
Vous aviez choisi quand même la difficulté, c'est-à-dire que votre imagination et votre liberté ne pouvaient pas souffrir de contraintes.
Oui, oh, c'était pas très difficile, surtout que on a tourné en plein été, donc la neige, il en restait très peu à haute altitude, qui était 1000 mètres. Ah oui, c'est le film qui donne l'impression.
C'est pas comme double messieurs, là, ils ont eu froid, ils ont vraiment eu de la neige.
Ah oui, la moins 40.
Là, ils ont eu moins 40 tout le temps. Alors là M. Stevenin,
oui.
il montrait qu'il était de la montagne. Oui.
Oui.
C'est vrai, puisque vous venez du Jura. Les films ressortent dans quelques salles, donc, on pourra les voir à partir du 18 avril. Est-ce que...
Reflet Médicis, ça sort. Uniquement au Reflet Médicis.
Ah oui, mais on a regardé, je pense qu'il y a ailleurs, dans quelques endroits en France,
on
va pouvoir les voir.
Oui, bien sûr. Oui.
Donc regardez près de chez vous si vous avez la chance de revoir ou Passe-Montagne, Double Messieurs, Mishka. Est-ce que ça peut ressortir en DVD aussi, une fois que c'est numérisé ?
Ça va ressortir en DVD, à la fin de l'année. Voilà. Ouais.
On va y revenir sur ces films, notamment avec Hippolyte Girardot qui nous déclarera sa flamme à Passe-Montagne, notamment. On est ensemble jusqu'à 18h. On va aussi parler politique, société, faire des blagues, dire des conneries. Restez avec nous.
J'espère que le programme de l'émission habituelle.
C'est vrai que t'avais été...
The Gem et Paul Weller, Town Called Malice, sur France Inter, par Jupiter. Nous sommes en compagnie de Jean-François Stévenin, qui est venu nous présenter tout frais, tout rafraîchi, ces trois films, Passe-Montagne, Double Messieurs et Mishka, qui sortent dans quelques salles, dont le Médicis à Paris à partir du 18 avril, et un peu plus tard en DVD pour retrouver Passe-Montagne, notamment Jacques Villeray ou Jean-François Balmer, dans Double Messieurs, Yves Afonso, Carole Bouquet, Jackie Berroyer, et dans Mishka, Jean-Paul Roussillon, Rona Hartner, Salomé Stévenin, Robinson Stévenin et Yves Afonso, exactement, et aussi Johnny Hallyday.
Ah oui.
Oui. Voilà. Ça ressort donc bientôt, si vous pouvez le voir près de chez vous. Pour entourer Jean-François Stévenin,
Beaucoup moins frais, beaucoup moins rafraîchi. On a Juliette Tarnot, Guillaume Meurice et Hippolyte Girardot.
En revanche, les nouvelles,
frais
du jour.
Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Hein.
Le journal de presque 17h17.
Moi, je sens que je vais me farcir un petit mot contre trip.
Et on commence par les titres.
Après Jean-Pierre Pernaut, Emmanuel Macron a donc été interviewé par Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin.
Et oui, vu la tournure de l'entretien, ça a dû lui donner l'impression de passer du salon de massage thaïlandais à de la boxe thaïlandaise.
Et on a appris que François Fillon avait dépensé 50 000 euros en jet privé pendant sa dernière semaine de campagne présidentielle.
Et oui, voler, c'est vraiment son truc.
Et les brèves.
Oui, parce que les brèves, c'est vraiment mon truc.
Et commençons par l'interview du président de la République.
Oui, le grand enseignement, c'est qu'Edwy Plenel s'inspire beaucoup des méthodes d'interview d'une célèbre journaliste de France Inter.
Vous avez vous-même dans votre question apporté la réponse.
Oui, je l'avais enlevé de votre feuille, hein. Pensez bien, je suis un malin. Emmanuel Macron a fait une grande annonce.
La possibilité de mettre en place un deuxième jour férié travaillé et non payé pour financer la dépendance.
Oui, financer la dépendance. On va donc bosser plus pour financer la coke de Benoît Magimel et le whisky de Jean-Vincent Placy.
Passons aux frappes en Syrie. Oui. Marine Le Pen estime que le président de la République a violé le droit international.
Et oui, elle est très jalouse parce qu'elle n'a réussi qu'à violer le droit fiscal et le droit européen pour l'instant.
Passons à François Fillon qui a donc dépensé 50 000 euros en jet privé dans la dernière semaine de campagne présidentielle.
Et oui, c'est pas tant le prix des travaux trajet qui me choque, c'est que c'est le même prix que les costumes qu'il avait reçus pendant la campagne.
Politique, toujours. Oui. En Gironde, la voiture d'Arnaud Montebourg se renverse sur l'A63.
Oui, comme d'habitude, il a sans doute braqué à gauche trop brusquement. Et voilà.
Venons-en à l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday.
Oui, l'avocat de Laetitia Hallyday a pris la parole en toute sobriété ce week-end.
Cette affaire, aussi incroyable que ça le soit, me rappelle, même si ça n'a pas de rapport avec les principes, l'affaire Dreyfus. Puisqu'on voit aujourd'hui la France divisée en deux.
Oui, bah oui, rien que ça. Rien que ça.
C'est ce qu'on appelle après le point Godwin, le point Dreyfus.
Le point Dreyfus.
Football, hier soir, le PSG est devenu champion de France, oui. Mais le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, s'est dit dégoûté de l'ambiance au Parc des Princes.
Et encore, il n'a jamais vu un meeting du Modem.
Monaco, oui. Lui a été humilié hier soir 7-1 sur la plus du PSG qui a décidé de rembourser ses supporters.
Monaco a remboursé ses supporters. Si tout le monde faisait ça, le Parti Socialiste aurait dû rembourser la cotisation de tous ses adhérents après la présidentielle.
Football encore.
Oui, avec l'affaire Balbir. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Après la victoire de l'Olympique de Marseille contre Leipzig en Coupe d'Europe, c'était jeudi dernier, les commentateurs se sont un petit peu parlé hors antenne. Voilà. Mais un petit malin a fait ressortir la bande.
Je suis bien content pour ces PD là, arrogants là, au match aller, là, comme ils étaient sûrs de gagner. Foiré.
Allez, quand même.
Bah oui, bah ça, c'est pas un petit dérapage de Tarlouze. Hein,
oui, bah t'as on enchaîne avec le cinéma.
Oui, bah, cinéma. Le Festival de Cannes a prévu, alors sachez-le, là, les deux acteurs, une punition pour ceux qui feraient des selfies sur le tapis rouge cette année.
Et les resquilleurs seront désormais privés de projection pendant 24 heures.
Alors, mon conseil, faites donc des selfies moins de 24 heures avant la projection du film de Jean-Luc Godard. Ça vous fera une toute bonne excuse pour pas y aller.
Allez, les brèves. Allez,
ils ont ri les deux, hein, je le dis. Hein, si l'escure nous écoute, les deux ont ri. Pour reconquérir son ex-petite amie, il lui envoie 80 000 SMS. Il lâche pas l'affaire avec Cécilia, Nicolas Sarkozy apparemment.
La dernière,
un journaliste argentin a tenté d'imiter le retourné de Cristiano Ronaldo et a fini à l'hôpital. Alors pour l'imitation de Cristiano Ronaldo, c'est raté, mais pour l'imitation de Gourcuff, c'était très réussi.
Merci Alex. Il est 17h25 à Lons-le-Saunier, c'est dans le Jura.
Oui.
C'est pas loin de là où vous avez grandi.
Oui.
Jean-François Stévenin est avec nous et on va aborder ce premier sujet sur la loi asile et immigration de Gérard Collomb qui est débattue cette semaine à l'Assemblée. Et le défenseur des droits, Jacques Toubon, a poussé une gueulante contre deux députés macronistes pour leur rappeler que les droits fondamentaux, c'est pas une abstraction. Les droits fondamentaux, c'est sur les trottoirs du boulevard de la Villette, dit Toubon. Ouais. Voilà, Toubon qui est passé donc de la droite dure à nouvelle égérie des ONG. Bref, Toubon, plus il vieillit, plus il est de gauche. Comment s'opère une telle transformation?
Et moi, je crois que le premier truc de la politique, c'est de donner à chacun selon ses besoins. Chaque être humain a le droit à un minimum de soins et d'aide.
Ça, c'est bien, ça. Ah, ça, c'est bien, ça. Chacun selon ses besoins.
Ah ben non, Fabienne, c'est pas chacun selon ses besoins, c'est chacun selon son mérite. Ah
ben, si j'avais dû nourrir mes enfants selon leur mérite, ils seraient tous morts de faim.
Enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Bijou? T'es en train de défendre des idées de gauche, là.
Non. Oh ben, j'ai peut-être pas de droite, alors, finalement.
Fais pas ci, fais pas ça, la série de France 2 avec Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec. Alors, il y a 22 ans, Jacques Toubon était dans le gouvernement qui ordonnait l'évacuation des sans-papiers de l'église Saint-Bernard. Non, ouais. Voilà, petit rappel.
Salut Jean-Louis Debré.
non, on le salue pas.
Jean-François Stévenin, vous avez eu l'occasion d'écouter Jacques Toubon ces derniers temps où sa gueulante vous était parvenue sur...
La gueulante m'est parvenue dans l'article et je trouve ça, oui, c'est une évidence d'ailleurs. Mm-hmm. Scandale, boulevard de la Villette, on commence par là. Bon. Sinon, ben, je l'avais rencontré il y a une vingtaine d'années. Donc, moi, je le voyais à la Chiraki et tout ça, tout bon. Et on avait passé l'après-midi formidable à parler de tout un tas de trucs, je ne sais plus de quoi, mais j'avais été sidéré de l'ouverture d'esprit de ce gars-là, de ses connaissances qu'il y avait un peu partout. C'était passionnant.
Ah oui.
Et est-ce que, du coup, vous l'avez un petit peu titillé vis-à-vis du fait que peut-être il était entouré de gens qui étaient moins ouverts d'esprit que lui?
Oh, sans doute, à l'époque. Je ne me rappelle pas exactement ce qu'on a dit. Mais
avec
c'était...
Chirac et Toubon, il y avait de la bière, vous en rappelez ou pas?
Non, je ne sais plus.
Mais c'est peut-être à cause de vous qu'il est devenu comme ça. C'est peut-être après cet après-midi.
Mais justement, que ce soit alors un mec de droite, un ancien du RPR, en plus, pur jus chiracien, qui soit celui qui gueule aujourd'hui et une des rares voix dans le système et les institutions pour gueuler contre l'inhumanité du gouvernement, ça vous inspire une réflexion? Vous n'êtes pas étonné, peut-être, de la réaction de Jacques Toubon pour l'avoir croisé à l'époque?
Ben non, mais je suis un peu étonné du comportement de tous ces hommes politiques qui ne lâchent jamais l'affaire, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'ils feront jusqu'au bout quelque chose, quoi. quand je vois ce pauvre Hollande qui est en train de ramer pour expliquer avec son bouquin que son quéquena était parfait et qu'on verrait les conséquences. Non mais à un moment, donnez-lui sa clé, qu'il aille manger à nos frais. Mais ça va quoi. Non, il n'a jamais l'affaire, jamais, jamais tout.
C'est vrai. Là, on a l'impression que Jacques Toubon fait le chemin inverse de Gérard Collomb, qui est issu d'un milieu très modeste, qui est socialiste, etc. Puis qu'aujourd'hui fait son Claude Guéant, et puis Toubon va dans l'autre sens. Il y a des circonstances qui font l'homme. Peut-être que Toubon, avec son ouverture d'esprit, était dans un contexte et entouré de gens qui l'ont mis sur une pente. Que Gérard Collomb, il pense peut-être le contraire de ce qu'il dit. Comment vous expliquez ça? Vous les voyez pas comme des personnages qui sont un peu des guignols?
Non, ou moi
des...
je pense qu'il vieillit bien, le Toubon.
Comme le bon vin, il y a le bon vin et tout.
Surtout,
bon.
Il peut se lâcher, il a plus rien à jouer, quoi. Ouais. Alors que Collomb,
ouais, mais François Hollande non plus, il a plus rien à jouer.
Mais hein. Ces mecs-là, ils pensent toujours revenir. C'est ça qui est assez fascinant.
Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour vieillir sans devenir un vieux con? C'est la question qu'on se pose tous. On n'a pas envie de devenir des vieux cons.
On aimerait bien savoir, mais Hippolyte, t'arrives pas à nous le dire.
On va bien faire du cinéma. Faut pas démarrer jeune con. Tu démarres jeune con, t'as des gens finir vieux. Bon, c'est ça. Il y a moyen con, mais non plus, faut éviter. En fait, tu vas terminer vieux con, bien évidemment, mais le plus tard possible.
Jean-François Stévenin, il faut faire du cinéma, vous dites, pour garder ça.
Il faut faire du cinéma. Parce qu'au cinéma, sur une équipe de tournage, il y a absolument tout ce qu'il faut. Et une entraide formidable entre les gens, il n'y a pas de bizutage. Un film, c'est tellement dérisoire que d'être 12 semaines ensemble, tout le monde se serre les coudes dans le meilleur des cas pour essayer de faire quelque chose.
Sur vos tournages, mais on a des tournages où ils restent dans leur caravane et ils ne croisent pas trop.
Oh non, non, je ne crois pas. Les bons, ils sont toujours très ensemble.
Oui, il est bon, ouais.
Et ça fait des bons films, ceux de Jean-François Stévenin. Je rappelle que Passe-Montagne, Double Messieurs, Mishka sont restaurés, numérisés, qu'ils sortent dans quelques salles en France le 18 avril, mais qu'on pourra les avoir en DVD. Et ils font désormais partie du patrimoine du cinéma français, donc dans votre DVD-tech, évidemment. Et 17h29 sur France Inter, Jean-François Stévenin, à vos côtés, il y a Juliette Arnault.
Oui. C'est moi.
Alors, je vous ai reconnu.
Alors, avant d'arriver à l'auteur dont je veux vous entretenir, qui s'appelle Ben Brooks et qui a écrit un livre qui s'appelle Lolito, et c'est un auteur assez provocant, pour comprendre à quel point c'est un très jeune homme provocant, on va d'abord aller à un sommet de la littérature adolescente et de la littérature tout court d'ailleurs, qui s'appelle L'Attrape-cœur, qui date de 1951 et qui a été écrit par Salinger. En gros, c'est l'histoire de trois jours de fugue dans New York d'un ado qui s'appelle Holden Caulfield. C'est écrit à la première personne. Holden Caulfield est hypersensible, il observe le monde et il l'aime pas des tonnes. Il est drôle, il est poétique, il est foutraque et il est désespéré. Le jeune auteur du jour, donc Ben Brooks, dans son premier roman, faisait dire à son héros, lui-même adolescent, deux points ouvrez les guillemets, je suis Holden Caulfield, mais en moins irresponsable et en beaucoup plus beau. Dans le monde de la littérature, c'est un peu gonflé, hein. C'est comme si j'écrivais mes mémoires et que je commençais en disant « Je suis Madame Bovary, en moins mariée, mais beaucoup plus fun. » J'aurais peur que
c'est
Gustave...
C'est pas faux,
hein, vous avez remarqué. J'aurais peur que Gustave tape un triple flip dans sa tombe à Rouen et vienne me faire moucher rouge et bien épais. Ben Brooks, lui, eh ben, il a pas peur. Il récidive même avec ce roman-là, celui d'aujourd'hui, Lolito. Oui, oui. Lolito, comme Lolita, mais au masculin. Hein. Lolita, le chef-d'œuvre de Nabokov, dont Kubrick fera un autre chef-d'œuvre, et qui raconte comment un homme de 37 ans se convainc en 500 pages que Lolita, 12 ans et demi et une seule chaussette, l'aime d'amour en total arbitre. Oui, mais c'est vraiment très bien écrit. Je suppose que si Ben Brooks n'a pas peur, lui, c'est parce qu'il est presque aussi jeune que ses personnages. Hein. Il a 26 ans en ce moment. Il est jeune comme Holden Caulfield, il est un peu plus vieux que Lolita, et puis Edgar, le héros de Lolito, eh ben, c'est un garçon, et ça change toujours un peu la donne. Et puis ici, là, c'est l'ado Edgar qui manœuvre via internet pour nouer une relation avec une femme adulte sans l'avertir de ses 16 ans et dans le dos de ses parents partis pour quelques jours. De toute façon, je vais vous dire la vérité, Edgar, il n'avait pas trop la patate récemment. Alice Calloway, son amoureuse, l'a trompée, alors il l'a quittée, alors Edgar est malheureux. Il cherche des solutions à son malheur sur Internet, alors je le cite, je tape « dépression sévère », Internet me conseille de manger des légumes et d'aller courir, c'est sans doute pas le bon diagnostic. Je tape « autisme », bon bah ça non plus. Je tape « cancer », je tape « Alice Calloway est une grosse merde », je tape « comment disparaître ». Internet n'étant qu'un dieu sourd et finalement assez décevant les soirs de grand vent, Edgar boit du Nesquik à la fraise, mais aussi comme un ado anglais de nos jours, il pratique le binge drinking, regarde du porno sur internet et envisage de se battre avec le garçon qui lui a volé le cœur d'Alice et finit par en ramasser une. Ah, la virilité, c'est pas plus facile à 16 ans que plus tard quand on a des poils et des responsabilités qu'on fait le match télévisuel d'hier soir. Bisous les biscottos. Bref, ce bouquin, Lolito, c'est cru, c'est provoque, mais surtout c'est drôle. Edgar, comme Holden Caulfield, est drôle à éclater de rire dans le métro. C'est que, comme il le reconnaît volontiers, Edgar est un petit être humain théâtral, un ado, quoi. Il est arrogant comme un futur adulte, mais il est sincère, presque visionnaire, exactement comme les enfants. Je suppose que de nos jours, on n'est plus dans les années 50, on est presque pratiquement tous d'accord pour dire que les enfants ne sont pas des adultes, juste plus petits de taille et de poids. Hein. Ben Brooks te rappelle que les histoires d'amour des ados ne sont pas forcément des mini-histoires d'amour, que les ados-filles parfois tombent enceintes et avortent, que souvent ça secoue ces histoires-là, assez même pour que le petit mec écrive une lettre à l'enfant qu'il a choisi de ne pas avoir. Ça, je ne l'avais jamais lu dans un roman. Et puis, il va écrire une autre lettre à Alice, une fois qu'il a compris qu'ils seront vraiment séparés, et il lui dit la chose suivante. C'est pour ça que dans les films, ils disent toujours « restons amis ». Je ne pense pas qu'on devrait être amis, parce que j'ai vu ton vagin et que ce serait bizarre. Quand j'aurai oublié à quoi il ressemble, on pourra peut-être. Peut-être qu'on sera vieux, peut-être qu'on aura des machines à café à dosette. Je ne veux pas de machine à café à dosette, Alice. Vraiment pas. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnault, qui publie Lolito et rappelez-nous l'auteur.
Alors Lolito de Ben Brooks, c'est à La Belle Colère.
Merci Juju. 17h34 sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter, oh vous avez raison, et en plus aujourd'hui c'est Jean-François Stévenin, et à venir la chronique d'Hippolyte Girardot.
Monsieur Président, ou intelligent, faut expliquer moi ça qui a passé où. Monsieur Président, c'est au cas où.
Monsieur Président, par Delgrès, sur France Inter, programmation musicale Djoubaka, merci à lui. Il est 17h37 et nous sommes en compagnie de Jean-François Stévenin. Tout va bien Jean-François ?
Impeccable.
On va parler Friche, on va parler Bruit, on va parler Girardot. Mais avant cela, nous parlons Meurice.
Vous vendez bien l'émission.
Moi, je vais vous faire une chronique spéciale entièrement dédiée à Le Jeune.
Ah oui.
Le Jeune, cette créature bizarre qu'on situe entre la tétine et le premier tiers provisionnel. Le Jeune est une espèce endémique qui vit à proximité des kebabs et des albums de Maître Gims, qui se manifeste par des grognements dits grognements de jeunes, hein, style ouais, c'est bon, t'es relou, je suis sûr, t'es même pas mon père, j'ai été adopté, ok? Mon vrai père, c'est Maître Gims, par exemple. Et en ce moment, Le Jeune est inquiet. Hein, Le Jeune craint pour son avenir de jeune, et donc Le Jeune bloque sa faculté à Tolbiac, où je suis allé ce matin, et Le Jeune fait du bruit. Le Jeune proteste aux grandes dames de ceux qui habitent à côté et qu'on appellera les pas jeunes. Il faut dire que Tolbiac est au milieu du 13e arrondissement de Paris et c'est pas tous les jours la fête de Le Jeune. À niveau ambiance, on est plus proche de l'encéphalogramme de Christophe Castaner que du bilan sanguin de Gérard Depardieu. Alors, certains pas jeunes du quartier sont compréhension, mais un peu quand même aussi condescendance.
Je trouve qu'il faut bien que jeunesse se passe, donc ils ont pas tort de se défouler, après tout, il va faire beau, hein, c'est le printemps.
Vous pensez que c'est juste parce qu'ils sont jeunes?
Ils ont besoin de se défouler, ils sont pas contents de ce qui se passe autour d'eux, de leurs conditions, de ce qu'on leur raconte que censé être leurs conditions, etc. Donc ils ont pas tout à fait tort, mais en même temps, c'est absolument illusoire, quoi. Je veux dire, c'est pas un service qu'ils se rendent à eux-mêmes.
Évidemment, Le Jeune croit qu'il peut réussir à changer le monde. On sait comment est Le Jeune, c'est le principe du jeune. Le Jeune ne sait pas que c'est foutu, qu'il fera comme tous les pas jeunes, hein. Il prendra un crédit 7LM pour payer son Xanax. Le Jeune ne veut pas devenir un pas jeune, il lutte, pourtant c'est dommage, car le pas jeune est pragmatique.
On est dans une situation, la France, l'Europe, difficile, et eux, ils vivent leur petit rêve.
Vous pensez pas qu'ils pensent à leur avenir?
Non mais attendez, mais non mais vous, non mais vous êtes naïf aussi.
Oui, non mais je joue, attention, je joue au faux naïf, je suis payé pour ça. Je sais bien que Le Jeune n'en a rien à foutre de son avenir, je vous le dis de toute la force de mes cheveux blancs, Le Jeune est un con, on le sait, et Le Jeune de Tolbiac est certainement la pire variante du jeune. Il est même qualifié d'agitateur professionnel par Emmanuel Macron lui-même. Qu'est-ce qu'il en pense, ce pas jeune, du concept d'agitateur professionnel?
Ben, c'est lui qui fait le bordel, et voilà.
C'est mais lui. Il est payé pour ça alors?
Ah non, mais là-dedans, il y a des professionnels, hein, des gens qui glandouillent et puis qui font le bordel. Mais attendez,
Les glandouilleurs professionnels.
Ah oui, oui.
Eh bien, évidemment, je fais le naïf encore une fois, mais les glandouilleurs professionnels, je connais, hein, je travaille moi-même avec Hippolyte Girardot, qui est quand même l'idole absolue des glandouilleurs professionnels. Il y a des posters de vous, d'ailleurs, Hippolyte, à Tolbiac. Il y a même un amphi qui porte votre nom.
Merci.
Depuis ce matin, c'est quand même bien la preuve.
C'est bien
alors,
la
on
preuve.
Continue sur la glandouille avec un autre riverain, pas jeune.
Il y a peut-être des mecs qui n'ont pas bossé de l'année, donc ils se disent. On va nous filer le diplôme. Moi, j'ai connu ça, hein, autrefois.
Hein. Vous pensez qu'il y a ça dans le mouvement?
Non, je n'en sais rien.
Oui.
Je n'en sais rien.
Mais oui, mais ça n'empêche pas d'avoir un avis et de le donner. Hein. Encore heureux qu'on puisse causer sans rien savoir de ce qui se passe. Sinon, l'antenne de BFM TV serait désespérément vide. Hein, vous imaginez, on retrouve Jean-Michel en direct. Jean-Michel, qu'est-ce qui se passe sur place? Ah bah, j'en sais rien, Jean-Marc. Moi, je suis à 500 mètres de l'action. Il y a de la pluie dans mes yeux, puis de la déontologie dans ma tête. Hein, vous imaginez le bordel. Heureusement qu'on a le droit de dire des conneries sans savoir. Alors, continuons avec une dame, pas jeune, qui sait.
C'est pas les étudiants qui sont là, c'est des casseurs. J'habite le quartier, je vois bien comment ça se passe. Voilà.
Il y a eu de la casse, où?
Chez moi, non, mais pas loin.
C'est... Mais là, ils ont pas l'air de casser, comme.
Ça, j'en sais rien. Hein. Je sais pas.
Mais on s'en fout, on peut très bien dire que c'est un mouvement de casseurs. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On n'a qu'à dire que c'est les glandouilleurs, agitateurs, casseurs. Bon, ça ressemble vachement à une définition d'un député de la majorité, mais on n'a qu'à rajouter sans pognon, et comme ça on fera la différence. D'ailleurs, sans pognon, pour l'instant, le jeune, il est comme ça, parce que agitateur professionnel, à mon avis, ça paye bien. Allons leur demander à les jeunes.
On est tellement peu lucratifs que les seuls frics qu'on a réussi à se faire, c'est samedi soir, et on l'a tous donné aux cheminots. On a réussi à se faire 6 000 balles et on l'a même pas gardé pour nous, quoi. On l'a donné aux cheminots.
Ah oui, non, mais là ça marchera jamais votre truc.
Bah oui, mais c'est bien ce que je vous dis, c'est ça le problème.
Eh bah oui, là c'est un problème. Si le jeune commence à être solidaire et pense pas qu'à sa gueule de jeune comme ses aînés, ça va être compliqué. Il l'a dit, Macron, il faut que les jeunes rêvent d'être milliardaires. Pensez Bernard Arnault, pensez pas Juliette Arnault. Hein. Si c'est pour jouer les casseurs d'individualisme, je suis pas d'accord. Alors il est temps de conclure avec cette saloperie de jeunesse qui bloque depuis ce matin une autre fac à Nanterre.
De la Uber occupation, c'est-à-dire toi-même tu fais ton occupation, tu vois, tu la montes toi-même, genre. On est des auto-entrepreneurs du désordre public.
C'est bien payé ça, agitateur professionnel?
Pas du tout. Alors on est tous bénévoles en fait. C'est ça, c'est un peu le problème. On n'a pas encore trouvé notre modèle économique. C'est pas très disruptif.
Ouais, attention, te fous pas de la gueule de la Startup Nation, le jeune, c'est pas bien. Respecte un petit peu tes aînés qui te crachent à la gueule parce que tu penses qu'à toi et qui te crachent à la gueule aussi quand tu penses aux autres. Deviens aussi médiocre que sinon ça va les faire culpabiliser. Allez, je te laisse, le jeune, je dois aller payer mon premier tiers provisionnel. Comme le dit Maître Gims, je me tire. dire.
Merci Guillaume Meurice et à toutes les feignasses et tous les glandeurs, vous êtes les bienvenus sur France Inter.
Même les glandouilleurs.
Avec Jean-François Stévenin qui est avec nous. Et on va aborder ce deuxième
fait
sujet.
Trois films sur 45 ans, donc il se pose là. Hein, on va pouvoir, hein.
Le roi des glandeurs est avec nous. Allez, dans les villes de grande solitude, où sont passés les terrains vagues et les squats, ces poches de liberté où s'installent les gens à la marge et où surgit une culture underground. Le squat et le terrain vague se sont gentrifiés. Maintenant, ça s'appelle des friches urbaines. Elles sont gérées par des entrepreneurs ou des associations en attendant que le terrain soit constructible et perdent bien sûr leur côté contestataire. Alors tiens, visite guidée avec deux des plus célèbres squatteurs de l'histoire.
En plus, ça donne sur une grande course, c'est super calme. Quand j'ai vu ça, j'ai eu le coup de foudre, j'ai signé tout de suite.
Ça peut être un peu vite, non?
Et fou, ça se laisse pas passer, un truc comme ça, c'est immense. On pourrait jouer au basket dedans.
Ah, j'ai amené le ballon. Attends, j'allume.
Laisse tomber, c'est cassé, ils m'ont promis de réparer.
Ah, ça serait bien.
Alors évidemment, là, on peut pas se rendre compte parce qu'on voit rien, mais c'est très grand, hein.
Bernard Giraudot et Michel Blanc dans « Viens chez moi, j'habite ah bah oui. chez une copine ». Patrice Lecomte, 1981. Voilà pour ce sujet sur les squats, les terrains vagues, les tunnels désaffectés, ce qu'on appelle aujourd'hui les friches urbaines. Il y a un article dans Le Monde Diplomatique, notamment, Le Monde Diplomatique du mois d'avril. C'est un marqueur de notre époque, ça, Jean-François Stévenin, la disparition de ces espaces dans les villes. On pourrait dire presque des mini-ZAD où il peut se créer des choses qu'on peut occuper comme ça. Puis aujourd'hui, qui sont, on dit, gentrifiés. Ouais.
Moi, je trouve ça assez formidable. Et j'en connais une, notamment, qui est l'association des Monts Gardés. C'est un terrain qui est près de Clay, Souilly-Clay, à 35 km de Paris. Mm-hmm. Ça appartient à la SNCF. C'est un terrain vague de 35 hectares qui était quasiment foutu quand ils ont fait la ligne TGV de Strasbourg. Il y avait tous les matériaux qui étaient là. Il y a une bande de gars qui se sont pointés là-bas. Et ils ont fait revivre absolument cet endroit avec des plantations de toutes sortes d'arbres. Avec, il y a des vaches, il y a des cochons. Et puis, il y a une ambiance très festive là-dedans. C'est gardé par eux.
Ouais. Donc, c'est autogéré, quoi.
C'est autogéré, complètement. C'est une fille qui s'appelle Agnès Sourisseau qui s'occupe de ça tout à fait bénévolement depuis plus de 10 ans. Et c'est absolument magnifique de voir tout ce cheptel. Il y a des poules innombrables. Et tout ce monde-là est en parfaite symphonie dans une nature. On voit les TGV qui filent à toute allure. Mm-hmm. Et voilà, pour l'instant, ça appartient à la SNCF. Ils voudraient bien se faire légaliser parce qu'en ce moment, avec les aventures du Grand Paris et l'extension, oui, on risque de les expulser pour foutre tous les matériaux. C'est un peu dommage quand on voit ça. Moi, j'ai fait des photos, j'ai passé une journée là-bas, c'est sensationnel.
Ah oui. Ouais. Ce sont aussi des...
En plus, pardon, oui, ils font des fêtes, il y a des orchestres, il y a tout un truc convivial comme ça. Il y a des sculpteurs, il y a des musiciens, tout le monde vient à tour de rôle, apporte une gamelle. Voilà, c'est tout ça à 30 minutes de Paris.
Et c'est ces lieux-là qui...
peut-être.
Pardon, hein, ça manque
de coiffeurs,
bien sûr. ce sont ces lieux qui font jaillir des choses, de nouvelles expériences.
Ah oui, moi je trouve, oui, ouais. Ça donne envie, quoi.
Et le fait que certaines dans les villes soient plutôt gérées, deviennent par exemple des bars, des lieux qu'on dit un peu bobos et gentrifiés, est-ce que, alors évidemment il y a une culture mais, qui émerge aussi, mais ça fait augmenter aussi, ça peut faire augmenter les loyers, ça peut être une sorte de les friches de faux lieux underground, quoi.
Je sais pas, moi j'avais trouvé aussi un truc très bien, mais j'ai plus le nom, là, dans le 18-20e, près de la gare.
Ouais.
La gare qui marchait plus. Donc il y avait au-dessus tout un bar avec des orchestres et tout ça qui marchait tous les jours. Hein. Mm-hmm. Ça s'appelait le
Juliette, vous voyez Le Monde Diplomatique en cite plusieurs. Foresta à Marseille, Souk Machine à Pantin, Les Grands Voisins à Paris, l'île de Nantes ou le Hangar Darwin à Bordeaux notamment. Une version moderne et strictement encadrée du squat qui aura fini par être officiellement intégrée à la ville. C'est aussi un lieu de fiction, un lieu d'inspiration dans le cinéma, ces immeubles désaffectés, ces terrains vagues, c'est aussi des lieux d'inspiration pour les créateurs.
Charlie Chaplin a fait toute sa carrière au début là-dedans. Hein. Mm-hmm. Il a vraiment marqué le cinéma.
Et Patrick
Grand-Perret
avait fait un très beau film qui s'appelle Mona et moi, ouais, où c'est ça, c'est des gars qui squattent quelque chose à Ivry. Mm-hmm. Et ça a fait un film formidable.
Bah, je vous renvoie au Monde diplomatique, notamment sur les friches, vernis sur la rouille, point d'interrogation, qui pose ce débat de ces poches de créativité, de marginalité qui sont soit autogérées, soit gérées par la ville ou l'État ou les associations.
Toujours mieux que d'y mettre des Starbucks.
Si on pouvait éviter de mettre voilà. Des Starbucks, en plus le café est dégueulasse. Alors, Hippolyte Girardot.
Alors, je suis très content de faire cette chronique parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Passe-Montagne, qui a été tourné en 1978 par notre invité Jean-François Stévenin. Vous savez ce que c'est 78? C'est l'anniversaire des 10 ans de 68. Ah oui, pourquoi pas, maintenant ouais. On fait des 60, on veut bien parler de 78 comme l'anniversaire des 10 ans de 68. C'est une année terrible, il a fait très très froid toute l'année, il a neigé partout, il y a eu des tempêtes, dont une très grave qui a envoyé un pétrolier géant qui s'appelait l'Amoco Cadiz se fracasser contre les rochers inondant de pétrole la côte nord de la Bretagne. Je m'en souviens, j'ai fait des photos pour Libération dans cet endroit et c'était absolument ignoble. C'est la première fois que j'ai vu ça en vrai, l'homme détruit la nature. C'est aussi l'année où il y a deux papes qui meurent, où le baron Empin est enlevé et où Claude François est maladroit. Cette année-là, Mesrine s'évade, Aldo Moro est assassiné, le palace ouvre ses portes et Robert Forisson sa gueule. Aux législatives de mars 78, sur 28 millions de votes exprimés, il y en a 700 000 voix qui donnent presque 100 sièges de plus à la majorité conduite par Raymond Barre, majorité de Giscard d'Estaing, sur un total de 500 députés. C'est un très bon ratio pour la majorité sortante. Et 10 ans, donc, avant de tourner Un Monde sans pitié en 1988, je vais au cinéma. Et je m'ennuie. Je m'ennuie beaucoup. Voilà. Les grands succès de cette année-là sont les deux films de Travolta, Grise et La fièvre du samedi soir. Il y a Les Bronzés et La cage aux folles. Bras, morale, plus ça change, plus c'est pareil. Bon, c'est vrai, je vais voir aussi L'angoisse du gardien de but au moment du penalty de Wim Wenders et Coco, le gorille qui parle de Barbet Schroeder. Mais bon, ces films, moi, à moi, ne me parlaient pas. Et puis un après-midi frigorifié, une année de froide tempête, je vous disais, je rentre dans un cinéma qui s'appelait Le Saint-Séverin, dans le quartier Saint-Michel, qui maintenant est une pizzeria, et je m'assois. Le film s'appelle Passe-Montagne. Je pense que c'est le mot montagne qui a dû m'attirer à cause du froid, à cause de la pluie, à cause de la neige, comme ça, une année terrible. On n'était pas beaucoup dans la salle, c'est vrai, mais dès le début, moi j'ai été tout seul. J'ai été tout seul avec le film. Ah, je vous raconte un peu. C'est Villeray, Jacques Villeray, tout jeune, tout gros, tout rond, tout mignon. Il est en panne sur l'autoroute. Il a une magnifique Mercedes 202 W124 et il ne veut pas la laisser à n'importe qui. Alors autant le problème du gardien de but ou du gorille ne me parlait pas, autant je comprenais le problème de ce personnage. Un type passe par là et lui propose de réparer. Ça tombe bien, lui, il a la même caisse, mais c'est en break. Il accroche la Mercedes de Jacques Villeray et il le sort de l'autoroute qui est la 6. Et on sent que c'est pas trop légal, parce que quand ils arrivent au grillage, il lui dit
« Éteignez les phares !»« Bah oui, mais on va où alors ?»«
Bah oui, on va où ? On va où ? C'est ça le film, on va où ?» Alors, parce qu'ensuite, le scénario est un peu inénarrable. Le film ne peut se réduire simplement à son histoire, mais c'est comme un western. C'est un long parcours pour que ces deux-là, Serge le garagiste, Jean-François Stévenin, et Georges l'ingénieur, Jacques Villeray, se rencontrent et chacun de leur côté passe la montagne. C'est Georges, d'ailleurs, qui, à un moment donné, raconte le truc.
Tu pars, tu t'approches, et tu passes à côté, et puis c'est fini. Et puis après, 10 ans plus tard, tu te retrouves, tu te dis, ah bah oui, je suis passé très près. Un jour, j'ai failli faire la Sainte-Tote, et puis voilà. Et puis c'est fini, puis c'est trop tard, puis tu peux jamais le refaire.
Passe-Montagne nous prend par la main, comme Serge prend celle de Georges, et nous emmène dans ce Jura qui est aussi isolé que l'Oregon ou le bout de la Sibérie. Il nous fait passer une soirée où les chiens parlent et où les types enterrent leur vie de célibataire en dégoûtant les filles qu'ils vont épouser. Le film nous fait dormir dans une chambre humide, glaciale, où on lit, charmante soirée, une vieille série noire. Le film nous donne faim quand Villeray prépare la poêlée de champignons et nous donne envie de boire quand un gars arrive avec un thermos dont il sort un stalactite que Stévenin casse en deux morceaux qui glissent dans des verres de blanc.
La neige, le gel, ça vient. Ça vient.
Je peux pas arriver à croire que j'ai déjà 40 berges, moi. Ça passe à une vitesse folle.
La neige, elle est 40 ans dans le même plan. J'avais jamais vu ça avant. Je serais bien resté des semaines, moi, dans ce cinéma, à voir Passe-Montagne. Mais le film doit se terminer, comme tous les films. Et Villeray, il doit partir, comme tout le monde. Alors ils ont passé toute cette journée, toute cette nuit, pour localiser ce qu'on appelle la combe. La combe magique, d'où les grands rêves s'envoleront. Même s'il ne faut jamais s'arrêter de chercher, on sait très bien que la combe magique est introuvable. Ce que dit très bien Serge Stévenin.
Et ta combe, elle est où ?
Bah sur l'autre carte.
Et voilà. Les grands films sont toujours sur l'autre carte. Et c'est à ça qu'on les reconnaît quand on passe montagne.
Hippolyte Girardot, merci.
Oh bravo, oui.
Ah ouais.
Hippolyte. Oh ah là ouais, c'est là.
Quand même.
Ça, j'ai jamais entendu raconter ce film irracontable si bien en si peu de temps. Ah non, en plus, on est pile dedans.
Il est balèze, hein, le gars.
Pour vous dire, moi qui ai vu Passe-Montagne, grâce à votre chronique, je l'ai revu défiler devant mes yeux. Vous aussi, Jean-François Stévenin, ouais. J'imagine, d'une autre manière. Mais, merci, Pauline Girardot.
C'est un film remarquable, très difficile à raconter, bien évidemment, mais très difficile, je pense, à réussir et à faire. Et qui, pour moi, est arrivé comme un coup de canon dans ce que je voyais au cinéma. J'ai commencé, je crois, vraiment à aimer le cinéma, à me dire qu'il y avait peut-être des choses à faire dans le cinéma après avoir vu ce film-là. Et grâce à celui-là, j'ai vu d'autres trucs qui avaient été faits avant. Mais sinon, avant, ça ne m'intéressait pas tellement.
Eh ben, vous n'êtes pas venu pour rien, Jean-François Stévenin.
Ça, c'est sûr.
Et on apprend que c'est de votre faute. Donc. Alors, en tout cas, Passe-Montagne ainsi que Double Messieurs et Mishka ont été restaurés. Et ce patrimoine cinématographique réalisé par Jean-François Stévenin, il sera disponible sans doute bientôt en DVD. Donc, et en attendant, dans les salles, quelques salles, le 18 avril, si vous avez la chance d'en profiter. On a un tout petit peu de temps pour parler juste du bruit, du son. Parce que Numérama a publié un article pour expliquer qu'un site permettait de conserver tous ces bruits des anciens appareils qu'on n'a plus, etc. Je voulais vous demander si, par exemple, un tournage de cinéma n'a plus le même bruit qu'aujourd'hui, si vous voulez garder tous ces sons de vieux appareils, si c'est un sujet qui vous parle, ça.
Alors ça parle très fort, oui, parce que vraiment dans le cinéma, ce qui compte beaucoup, c'est l'ambiance sonore, c'est les bruitages, c'est tout ça qui donne une vérité totale. Donc, effectivement, par exemple, on passe montagne, il y a un téléphone, c'était du temps, il fallait
avec le cadran. Ah oui, oui.
Et il fallait parler avec idée, demander, etc. C'est vachement important, les sons comme ça.
Et tout ça, c'est par exemple sur Conserve the Sound, qui est un site britannique. Il existe aussi une version allemande, et donc il faudrait créer, si elle n'existe pas, mais sinon dites-nous, une version française pour enregistrer tous ces sons. Jean-François Stévenin, on va déjà passer au sketch.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité. Il découvre le texte et je vous sens étonné. Et on nous a dit que vous imitiez très bien Gérard Depardieu. Alors ce moment, Depardieu, il tourne avec Clavier. Donc, on a dit que Hippolyte Girardot ferait Christian Clavier.
D'accord.
Vous faites Gérard Depardieu et Guillaume, le réalisateur du film, est aidé par Charline, l'assistante plateau.
D'accord.
On sera sur le tournage.
On va pas être capable.
Bon, quelqu'un a vu Astérix et Obélix, là, hein ?
Monsieur Depardieu, on vous attend sur le plateau, hein ? Monsieur Clavier aussi.
Oh, non, j'arrive, ma couille, j'arrive.
Mais moi aussi, j'arrive ! Allez, les intermittents, sors les doigts du cul, là !
Ah, le petit Christian, t'es toujours aussi moche.
T'es toujours aussi gros.
Qui parle et attend, depuis les bronzés, t'en as bouffé les crêpes au sucre, ça se voit.
Bon, Laura et les Hardy, on va y aller, là.
Vous voulez le texte, monsieur Depardieu ?
Oh, le texte, moi, je dis ce que je veux.
Il m'énerve.
Ah merde, mais quel est le débile qui a oublié de couper son portable, là ?
Le débile, il a mis dans son contrat une clause qui l'autorise à répondre au téléphone. En plus, c'est moi qui paye tout.
On y va, mais on y tourne, merde !
C'est monsieur Poutine au téléphone, il voudrait vous parler des frappes françaises en Syrie.
Oui, attends, ta gueule. Oui, allô ? Oui, Vladimir, moi aussi, je suis emmerdé pour le Bachar, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi ?
Il propose que vous parliez à Macron.
Le marmot, mais il pige rien. Dis-lui que je suis sur un tournage avec le petit.
Et puis il vous dit d'embrasser Nicolas Sarkozy.
Mais oui. J'ai pas Sarkozy.
Oh, enfin, presque quoi.
Tu sais que ma prochaine comédie, ça parle de la Russie et de la Syrie.
Ah bon ?
Oui, ça va s'appeler de l'eau dans le gaz. Ça raconte l'histoire d'Oleg, un jeune homme tchétchène qui s'engage dans l'armée russe pour échapper au lynchage.
Oh putain, oh là 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 là.
Oh le Christian, il a toujours le flair pour choper le bon scénario.
Et alors il est envoyé en Syrie, et là qui croise son ami d'enfance, Dimitri, qui a rejoint Daesh.
Ouais, on va y aller là.
Ok. Allez,
allez, messieurs, on s'y remet là.
Allez, action.
Attends un peu, bouge plaît, je dois pas.
Ah merde, encore là.
Oui, j'ai une clause.
Ouais, bah, et bien, j'ai pas de clause pour éviter les emmerdeurs.
Ah, c'est votre trépissier, monsieur Depardieu, au sujet d'une livraison à domicile.
Oui, bah dis-lui, les 50 tonneaux de Chablis qui les mettent dans la cave.
Mais les 12 kilos de saucisses de Toulouse, on fait quoi?
Dis-lui que je tourne avec le petit.
Ah, bah et vous dites bien saluer Valbuena. Surtout.
Mais merde, je suis pas Valbuena, moi.
Arrête ou je te montre ta sectée.
Ah non.
Oh, c'est con.
Mais pourquoi?
Bah, je t'ai jamais vu jouer juste, mais là, c'est ton meilleur film.
Jean-François Thévenard dans le rôle de Depardieu et Pauline Girardot en question clavier. Merci beaucoup Jean-François Thévenard d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle que Passe-Montagne, Double Messieurs et Mishka, vos trois films, en sont restaurés. Sont disponibles dans quelques salles dont le Médicis à Paris et quelques salles aussi dans toute la France. Et puis sortiront bien sûr en DVD. C'était un plaisir de vous recevoir, on était ravis. Merci Jean-François Thévenard.
Ben, merci de tout, de toutes vos pétillances et de vos joyeuses ambiances.
C'est toi qu'on l'a invité, bon.
C'est vrai, c'est vous qui imprimez cette ambiance. Allez, on laisse le mot de la fin à Guillaume Meurice qui commence à vendre beaucoup, beaucoup de livres quand même.
Je refuse d'être un petit bourgeois, tu entends? Je refuse